Démocratie est en crise, c'est l'objet de votre dernier ouvrage, Le nœud démocratique aux origines de la crise néolibérale chez Gallimard. On va y venir dans un instant, aux origines de cette crise, mais donc la démocratie va mal, elle est malade. Est-ce que pour autant vous reprendriez encore aujourd'hui, Marcel Gauchet, la fameuse formule de Winston Churchill ? La démocratie, c'est le pire des systèmes, d'accord, mais à l'exception de tous les autres.
Elle est indépassable en un sens, mais elle ne dit rien. C'est un paradoxe amusant qui fait plaisir. Ça excite les neurones, mais on voit bien que ça ne dit pas en quoi c'est le meilleur et pourquoi les pires sont pires. Donc finalement, on n'avance pas beaucoup avec ce genre de formule.
Elle ne dit rien, mais vous...
Vous êtes historien, sociologue, considéré comme l'un des plus grands intellectuels français contemporains. Spécialiste de la démocratie, vous venez de publier « Le nœud démocratique aux origines de la crise néolibérale ». Pour ausculter l'état de nos démocraties occidentales, vous avez le profil idéal. Votre propension à écrire sur ce régime dans lequel, théoriquement, le pouvoir appartient au peuple remonte à une quarantaine d'années. En 1996, dans La Révolution des pouvoirs, vous éclairez le parcours de la démocratie depuis la Révolution de 1789.
La grande nouveauté de la Révolution française, c'est l'explosion de la liberté de la presse, tout simplement, et d'une manifestation de l'opinion sous tous ses aspects, aussi bien la manifestation de rue, qui est une expression comme une autre de l'opinion.
10 ans plus tôt, avec Le désenchantement du monde, une histoire politique de la religion, vous aviez étudié l'influence de la sortie de la religion sur l'enracinement des procédures démocratiques. Cette réflexion qui constitue l'un de vos thèmes de prédilection est reprise en 2005 dans votre essai intitulé « La condition politique ».
La grande révolution moderne, c'est l'arrivée à la reconnaissance de ce que la société, les usages, les lois, c'est nous qui les faisons. Le pouvoir politique, c'est nous qui le désignons. Il ne tombe pas du ciel, il n'y a pas des dieux, nous l'élisons.
Aujourd'hui, vous proposez une analyse des symptômes dont souffre la démocratie. Vous mettez notamment en avant l'opposition entre néolibéralisme et populisme. Selon vous, la protestation populiste est une réaction à l'évolution de la démocratie d'inspiration néolibérale qui valorise les droits individuels dans leur dimension privée, aux dépens de la souveraineté populaire. Vous évoquez même la connivence égoïste des élites dont se nourrit le rejet populiste. Dans votre conclusion, vous précisez « Le mépris social s'ajoute à l'assurance d'être du bon côté chez les sachants et achève d'envenimer la dispute, son pouvoir d'intimidation se payant en ressentiment aggravé. »
Alors Marcel Gauchet, le populisme comme réaction à cette crise néolibérale de la démocratie, précisément, passons aux travaux pratiques et à l'actualité qui sert ce propos quasiment jour après jour un petit peu partout, et notamment aux États-Unis. La récente élection de Donald Trump, est-ce que c'est effectivement, à vos yeux, une manifestation de cette crise de la démocratie qui a donc assuré l'élection nette d'un candidat dit populiste? Et est-ce que c'est un symptôme, et est-ce que c'est pas un symptôme qui aggrave aussi la crise de la démocratie américaine?
C'est à coup sûr un symptôme de la crise des démocraties qui touche tout le monde occidental, un des plus clairs, parce que s'il y a une chose qu'on ne peut pas refuser à Trump, c'est d'incarner à peu près parfaitement sur toute la gamme, y compris la vulgarité sans limite, une sensibilité populiste refusant au fond l'hégémonie des élites qui aux États-Unis dont il fait partie d'ailleurs à l'origine, et qui aux États-Unis a un poids supérieur certainement à toutes les démocraties européennes.
C'est-à-dire que son succès est alimenté à la fois par ce mépris des sachants, en tout cas pointé du doigt, comme vous l'évoquez d'ailleurs dans votre ouvrage, et puis aussi par une crise identitaire, par le sujet de l'immigration en particulier, dont vous faites aussi un des moteurs de ce vote populiste un petit peu partout.
Et il faut mettre, je crois, cet ensemble de facteurs qui compte dans une problématique plus générale. Trump est l'homme de la réaction du peuple américain à un sentiment profond de déclassement par rapport au reste du monde. On dit toujours que le peuple américain ne s'intéresse pas à la politique étrangère. Je pense que pour la première fois, la dimension de politique étrangère a été majeure dans cette élection. C'est un refus de ce slogan qui nous paraît débile, faire une grande Amérique comme si elle était petite. En fait, ça a un sens très profond vu de là-bas. C'est la réaction à un sentiment que finalement les États-Unis ne sont plus les maîtres du monde, pour employer une expression excessive. Et je crois qu'il y a une défense profonde, non pas simplement de l'identité américaine, mais du rôle des États-Unis dans le monde dans cette élection.
Et ce sentiment, il est nourri aussi par l'immigration dont vous parlez dans votre livre. C'est un des ressorts du discours populiste, c'est ce que vous dites, mais c'est pas comme si on s'en saisissait pas, l'immigration. Regardez, en France, par exemple, il y a eu 30 textes de loi sur l'immigration en 40 ans. Le Premier ministre en parlait hier encore au journal de 20h. Finalement, on se trompe en pensant qu'en parlant et en se saisissant du sujet de l'immigration, on va combattre le populisme.
Encore faut-il savoir le faire et tenir le bon discours et pour commencer, identifier ce qui rend ce problème aussi enflammé. Parce que par soi-même, le phénomène est banal, il court dans l'histoire. Aujourd'hui, ce qui compte dans l'immigration, c'est, et particulièrement on l'a vu dans l'élection américaine, mais c'est vrai en général, c'est la représentation de la pression d'un monde extérieur hostile. Si on a une immigration, si je puis dire, positive, qui vient pour rallier la cause et les valeurs de nos sociétés étaient en jeu, je pense que les réactions seraient totalement différentes.
Elle n'est pas perçue comme telle, c'est ça.
C'est pas l'immigration en tant que telle, c'est l'immigration en tant que représentant du monde extérieur, qui ne nous veut pas forcément du bien.
Et au cœur de votre démonstration, il y a, et au cœur de cette crise du modèle néolibéral de la démocratie, il y a la question du poids croissant de l'individualisme. Vous évoquez le fait qu'aujourd'hui, à vos yeux, l'individualisme dans toutes ses dimensions prend le pas sur le collectif en quelque sorte. C'est individualisme, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le triomphe des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général?
C'est plus compliqué encore que ça. C'est une vieille affaire, l'individualisme. Hein. Mais là, il a pris une nouvelle couleur parce que c'est un individualisme par le droit. C'est-à-dire non pas simplement une somme de comportements particuliers, mais une formule générale de la vie sociale où finalement, ce qui compte, c'est les libertés individuelles et le marché des droits individuels. Finalement, c'est la seule formule de la vie collective.
Des droits individuels plutôt que les devoirs collectifs, c'est ce que vous voulez dire.
Oui, mais surtout du pouvoir collectif. Parce que quand on parle de devoir, on raisonne toujours dans le rapport de l'individu à la collectivité. C'est la possibilité même de faire une collectivité politique qui est en jeu dans l'affaire des droits. C'est ça qui est le vrai point d'inflammation.
Justement, cette crise de la démocratie, cet affaiblissement de la démocratie au regard de l'opinion, bah, ça donne du côté des Français un rapport, on va dire, plutôt ambigu à cet idéal démocratique, justement.
Oui, tout à fait. Près d'un Français sur quatre n'est pas convaincu que la démocratie est le meilleur système politique. C'est ce qu'on apprend dans le dernier rapport du Conseil économique, social et environnemental qui a été publié fin octobre. Ce sont essentiellement les jeunes de moins de 35 ans et les personnes aux plus faibles revenus, d'ailleurs, qui le pensent. On apprend aussi que plus de la moitié des Français pensent que seul un pouvoir fort et centralisé peut garantir l'ordre et la sécurité, donc une vraie défiance envers la démocratie. Et quand on demande à ces interrogés ce qui pourrait améliorer le fonctionnement de la démocratie en France, ils réclament majoritairement une meilleure prise en compte de leurs préoccupations par les politiques. Est-ce que ça veut dire que ça n'est que la faute des politiques, Marcel Gauchet, que les Français croient moins en la démocratie ?
Non, ce n'est pas que de la faute des politiques, même si leur responsabilité n'est pas à minimiser. Mais vous remarquerez que si la démocratie n'est pas à leurs yeux, de ces Français mécontents, le meilleur système, ils n'en ont pas d'autre à mettre à la place. C'est là où on est dans une vraie crise. Parce que s'il y avait une alternative disponible, on pourrait penser autrement. Mais il n'y en a pas. Et qu'est-ce qu'ils disent en parlant d'un pouvoir fort? C'est tout simplement un pouvoir efficace. Qu'est-ce qui est frappant et ce qui est très mal vécu par les citoyens de tous bords, alors de gauche et de droite, d'extrême droite et d'extrême gauche, c'est l'impuissance des pouvoirs, qui est la marque la plus frappante du fonctionnement de nos régimes. C'est qu'ils parlent, ils font les 37 lois dont vous parliez, ils font semblant de faire des lois, il ne se passe rien. Donc il y a une perte.
Et plus on légifère, plus on illustre même cette impuissance.
Absolument, on en rajoute, on ramène une couche pour souligner le fait qu'en réalité, on fait semblant, mais qu'on ne peut rien faire d'efficace.
Alors une fois ce constat très dur réalisé, en fait, vous proposez des solutions, notamment l'usage du référendum, une meilleure intégration dans la démocratie représentative. Cela dit, le référendum, il est aussi très critiqué pour ses dérives, pour l'autoritarisme qu'il autorise et pour les divisions qu'il peut susciter.
Bien entendu. C'est donc pas, je ne fais pas un plaidoyer inconditionnel et naïf pour le référendum. Je demande simplement qu'on examine les conditions d'un bon emploi.
Alors sur quel genre de sujet, par exemple ?
Sur tous les sujets. Il n'y a pas de limite. Mais le problème que l'impuissance démocratique aujourd'hui se nourrit en fait de l'impossibilité de représenter dans l'esprit des acteurs, des citoyens, une majorité qui ne méprise pas la minorité, mais qui néanmoins a une capacité de faire valoir ses voeux.
Et, ça c'est au fond, les institutions.
Et aujourd'hui, les exécutifs n'y arrivent plus. Il faut le constater. Donc il faut retrouver à l'intérieur des valeurs de nos régimes, parce que justement, je ne crois pas qu'il y ait d'alternative à la démocratie. Il faut partir de là. S'il s'agissait simplement de proposer une martingale qui nous délivrerait de tous ces malheurs, ça serait une autre affaire. Là, non. Il faut penser de l'intérieur de la démocratie ce qu'on peut améliorer dans son fonctionnement. Et le référendum, attention, il est perçu aujourd'hui par les citoyens, non pas simplement comme une arme du pouvoir qui se fait plébisciter facilement, mais comme une arme des citoyens contre les pouvoirs pour les obliger.
Une toute dernière question, Marcel Gauchet. Dans votre ouvrage, vous posez aussi ce que vous appelez les limites de l'état de droit. Vous reprendriez la formule de Bruno Retailleau qui avait dit « l'état de droit n'est pas intangible, n'est pas sacré ».
Voilà le type même de langage politique qui crée un faux débat. Évidemment que la formule est très maladroite.
C'est l'état du droit qui peut évoluer, mais
oui,
pour rester dans l'état de droit.
Ça. C'est-à-dire, en plus, pour commencer, qu'est-ce qu'on met derrière l'état de droit? c'est pas évident du tout. Hein. Je crois qu'elle doit, sur un vrai sujet, mais il le fait dans des termes qui polluent le sujet. Il y a un problème du langage politique, et je crois que c'est une des choses sur lesquelles nos dirigeants devraient beaucoup réfléchir.
Et un de ces problèmes, effectivement, Marcel Gauchet, tient aussi peut-être à la brièveté, parfois à la recherche de la formule qui fait plus ou moins mouche par les politiques.
Qui fait parler, en tout cas.
Et votre ouvrage, vous, en revanche, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de mots, de phrases et de pages, et c'est passionnant, ça permet justement d'aller au fond des choses, et plus précisément au cœur de ce nœud démocratique aux origines de la crise néolibérale chez Gallimard. Merci.